Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast, Le Cercle de la Bougie.
Je me porte bien parmi les solitudes. Ce sont mes ailes qui m'isolent. Mais c'est vers toi, humanité, que je vais avec elles. Pablo Neruda, Poésie introspective et nature.
Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'un poète immense, Pablo Neruda, chilien, prix Nobel en 71. Et on va s'intéresser à un aspect assez fascinant de son œuvre, ce qu'on appelle sa poésie picturale.
Oui.
L'idée c'est un peu de voir comment il arrive, juste avec des mots, à nous donner des images aussi fortes, aussi visuelles.
C'est une excellente porte d'entrée parce que Neruda, 1904-1973, pour resituer, il fait bien plus que d'écrire. C'est vraiment une immersion sensorielle qu'il propose.
Ah oui?
Oui, lire ses poèmes, c'est souvent un peu comme être devant un tableau. On sent les choses, on voit les couleurs qui explosent. On va essayer, ensemble, de voir comment marche cette alchimie des mots, quoi, en se basant sur les textes, les analyses qu'on a.
Parfait. Alors, pour qu'on soit bien clair, cette poésie picturale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça se voit comment dans ses poèmes?
Mais en gros, ça veut dire que sa poésie, elle mise énormément sur des images. Des images qui nous parlent au sens, surtout la vue. Et puis, il y a cette utilisation des couleurs très, très riches, très pensées.
D'accord.
Le but, c'est vraiment de provoquer chez la personne qui lit une réaction presque physique. Une émotion qui passe d'abord par le regard, par le visuel.
C'est un peu l'idée de peindre avec des mots, alors. Mais techniquement, il a des outils, des techniques préférées pour faire ça?
Oui, oui, bien sûr. Principalement, les métaphores, les comparaisons. Mais attention, hein, pas n'importe lesquelles. Celles de Neruda, elles ont ce truc assez unique. Elles métamorphosent des choses toutes simples, des objets du quotidien ou même des sentiments, des trucs abstraits,
oui,
en scènes pleines de vie, en tableaux hyper dynamiques.
On avait des exemples dans les sources, la mer qui devient un poème salé.
Voilà.
Ou l'amour comme une fleur de lumière. C'est vrai que ça crée tout de suite une image très, très nette.
Exactement. Et au cœur de cette palette de mots, il y a les couleurs. Ça, c'est absolument central chez lui.
Ah.
Une couleur, c'est jamais juste là pour faire joli, tu vois. Elle porte un sens, une charge symbolique vraiment forte.
Ah, ça c'est intéressant. Ce symbolisme des couleurs, c'est quelque chose de constant. On peut un peu décoder certaines couleurs chez lui.
On retrouve des lignes de force, oui. Le jaune, par exemple, c'est souvent la lumière, la chaleur, la vie, quoi. Le bleu, évidemment, le ciel, la mer. On pense tous au poème 20, non? Les étoiles bleues tremblent au loin.
Oui, bien sûr.
Le rouge, ben... c'est la passion, l'intensité, parfois le sang aussi. Et le vert, c'est la nature foisonnante, l'espoir.
D'accord.
Mais attention, c'est pas un code secret, hein. C'est plus une tendance, une atmosphère qu'il installe avec ses couleurs.
Et toute cette richesse des sens, ça vient beaucoup de la nature, j'imagine. Surtout la nature de son pays, le Chili, qui est si présente dans son œuvre.
Tout à fait. La nature chilienne, c'est une mine d'or pour lui. Inépuisable. Et il l'a décrit d'une manière incroyablement charnelle presque.
Charnelle ?
Oui, la flore, la faune, l'océan Pacifique, tout ça devient palpable sous sa plume. Les arbres, les fruits, les oiseaux, c'est pas juste un décor, tu vois ? Ils participent à l'émotion, ils deviennent des personnages, des acteurs du poème.
Ce qui fait qu'on n'est pas juste en train de lire une description, on ressent presque physiquement le paysage ou l'émotion qui est liée à ce paysage. Ça rend le truc très immersif, non?
C'est exactement ça. C'est ça, sa grande force. Et si on regarde d'un peu plus près, on peut même repérer des caractéristiques précises. D'abord, cet imaginaire sensoriel, hyper intense. C'est un langage qui cherche tout le temps à nous faire voir. Ses poèmes, ils sont souvent construits comme des scènes, des tableaux, avec une attention folle aux couleurs, aux formes, à la lumière, au mouvement. L'exemple de l'ode à la tomate, il est parfait pour ça. Marcher toute bête, et il en fait une explosion pour les sens. Deuxième point important, l'audace de ses métaphores et de ses personnifications. Neruda, il a ce don pour donner vie à ce qui est inanimé, pour rendre le banal extraordinaire juste par une image inattendue.
Et ça marche aussi pour les émotions, les idées abstraites. Il arrive à les connecter à des choses concrètes, à des couleurs.
Oui, et c'est là que ça devient très très puissant. prend le sonnet LXXI des 100 sonnets d'amour. Il écrit « Peut-être que la lumière de janvier consumera mon cœur avec son cruel rayon, me volant la clé du vrai calme. »
La lumière de janvier. C'est une image qui marque, effectivement. Elle n'est pas juste jolie, elle porte quelque chose de plus complexe, non ?
Absolument. Elle est double, cette lumière. Elle suggère la chaleur intense, peut-être même dévorante, de l'amour. Mais en même temps, la douleur, le danger de cet amour. Ce rayon, il est cruel.
Ah oui ?
Donc la lumière, c'est pas juste un éclairage. Ça devient le moyen de transporter une émotion ambivalente, presque dangereuse. C'est une façon de peindre la complexité même de l'amour.
C'est fascinant de voir comment une seule image peut contenir autant de choses. Si on continue avec les exemples. Comment il peint quelque chose d'aussi rapide, d'aussi fugace que le rire ? Dans ton rire, tu risas. Il dit bien « Ne me prends pas le rire, car je mourrai ».
Oui, dans ce poème, le rire, c'est vital. Mais Neruda, il ne se contente pas de le dire. Il le transforme en élément de la nature, puissant. Il le décrit comme une cascade écumeuse, une fleur bleue. C'est pas juste des comparaisons mignonnes, ça. Ça donne au rire une texture, une couleur, une énergie. On le voit presque, ce rire. Comme une force vive qui illumine tout autour.
Donc, même l'abstrait devient matière, devient image. Et pour les émotions contradictoires, comme dans l'autre sonnet célèbre, le LXXV, « Je t'aime seulement parce que c'est toi que j'aime, je te hais profondément et haïssant, je m'incline vers toi ». Comment on peut peindre une contradiction pareille ?
Là, il joue beaucoup sur les contrastes. Contrastes de température, de lumière. Il parle du froid, du feu de l'amour, de cette fameuse lumière de janvier qu'on a déjà croisée.
Ouais.
Ces images, elles créent une tension visuelle très forte. C'est comme s'il utilisait des couleurs très opposées, presque violentes, pour nous faire ressentir physiquement ce tiraillement de la passion ambivalente.
Et dans le célébrissime poème 20 avec la nuit étoilée, la nuit étoilée et les étoiles bleues tremblent loin. On retrouve cette idée du paysage comme miroir de l'âme.
Exactement. C'est un exemple magnifique, celui-là. Le paysage de la nuit, ça devient une toile immense où il projette sa mélancolie. Les étoiles bleues qui tremblent, le vent qui chante. C'est pas juste des descriptions, ça. Ce sont des touches de couleurs, de sons qui peignent la solitude, le souvenir de l'amour perdu. L'immensité du ciel, ça renvoie à l'immensité du vide intérieur.
Et les sources insistaient aussi, pour ce recueil 20 poèmes d'amour, sur cette fusion très fréquente entre le corps et la nature, comme l'image « J'aime tes seins de sable ». C'est encore une façon de rendre les choses tangibles, ça.
Oui, cette osmose, elle est partout chez Neruda. Le corps de la personne aimée est décrit avec des éléments naturels. Le sable, la terre, un fruit. Et inversement, la nature prend souvent des formes humaines, des sensualités humaines.
D'accord.
Ça brouille les frontières, ça rend le monde intensément vivant et très sensuel aussi.
C'est poussé super loin, comme dans le poème 15, où il arrive à rendre le silence visible. L'extrait dit « Laisse-moi te parler aussi avec ton silence clair, comme une lampe, simple comme un anneau. Ton silence est celui d'une étoile, si lointain et si candide. » Peindre le silence, comment c'est possible ça ?
C'est assez incroyable, hein, n'est-ce pas ? Le silence, qui est par définition l'absence de son, ici il devient un objet, lumineux, concret.
Oui.
Il est clair comme une lampe, il a la forme simple d'un anneau, l'éclat lointain d'une étoile. Neruda donne une présence visuelle à ce qui est impalpable. C'est peut-être là qu'on voit le mieux sa maîtrise de cette peinture verbale, justement.
Même dans des textes plus introspectifs, comme « Les vers du capitaine », cette tendance à visualiser, elle reste. « Je me porte bien parmi les solitudes, ce sont mes ailes qui m'isolent, mais c'est vers toi, humanité, que je vais avec elle. »
Tout à fait. L'introspection elle-même, elle passe par des images. La solitude, c'est pas juste un sentiment abstrait, c'est un lieu. Le lien à l'humanité, il se fait par des ailes. L'image est toujours là pour donner corps, pour rendre visible l'idée ou le sentiment.
Ce style si personnel, si visuel, il ne sort pas de nulle part, j'imagine. Les sources parlaient d'influence, le surréalisme par exemple.
Oui, le surréalisme a joué un rôle, c'est certain. Surtout pour le Neruda de résidant sur la Terre. Il faut se rappeler que le surréalisme, ça cherchait à explorer l'inconscient, le rêve. Souvent par des images un peu chocs, illogiques. Alors Neruda n'a jamais été un surréaliste pur et dur. Mais on sent chez lui cette liberté dans l'association d'images. Ces juxtapositions un peu bizarres qui créent un effet visuel très fort, parfois déroutant.
Comme cette image très étrange dans Marche autour, le signe de feutre, desséché, imperméable, comme un signe de feutre. Ça, c'est typiquement le genre d'image qui marque, non ?
Exactement. Un signe de feutre, ça défie la logique, mais ça crée une image mentale hyper puissante. Ça mélange la grâce qu'on attend du signe avec un truc lourd, artificiel, le feutre.
Oui, c'est vrai.
Ça visualise parfaitement ce sentiment de lassitude, d'étrangeté au monde qu'il exprime dans le poème. C'est un choc visuel, ça. Typique de cette influence surréaliste.
On mentionne aussi le modernisme. Qu'est-ce que ça recouvre, rapidement, et comment ça a pu influencer Neruda ?
Alors, le modernisme, en gros, c'est un courant du début du XXe siècle qui a voulu rompre avec les formes classiques, explorer la subjectivité, l'expérience intérieure.
D'accord.
Pour Neruda, ça a pu se traduire par cette attention extrême aux détails des sens pour exprimer un état d'âme, par une certaine fragmentation de la perception. Il s'éloigne d'une narration linéaire pour privilégier l'impact de l'image brute.
Et puis, il y a son engagement politique, son communisme. Comment on peut relier ça, factuellement, à son esthétique si visuelle ?
C'est un point important. Et il faut l'aborder, objectivement. Neruda croyait vraiment que l'art devait être accessible, qu'il devait parler au peuple, servir une cause de justice sociale.
Mmh.
Et cette conviction, ça l'a sans doute poussé vers un art qui, même s'il est très imagé, très lyrique, reste quand même ancré dans le réel, dans l'expérience commune. L'amour, la nature, oui, mais aussi le travail, les luttes sociales.
D'accord.
Il cherche à rendre ces réalités visibles, palpables, à travers ces images.
Donc ce n'est pas un art abstrait, coupé du monde. Il utilise la force de l'image pour parler du monde, en quelque sorte.
C'est une bonne façon de le dire, je pense. Sa poésie picturale, c'est pas une fuite dans l'esthétisme pur, quoi. C'est une manière de magnifier le réel, de révéler la beauté ou la douleur du monde concret. Les grands thèmes universels, l'amour, la nature, y prennent corps grâce à cette palette visuelle. Ça connecte l'intime et l'universel.
Et ce rapport à la peinture, ce n'est pas juste une façon de parler de son style. Il y avait de vrais liens avec des peintres, des artistes.
Absolument. Déjà dans sa manière de travailler, les sources nous disent qu'il collectionnait les mots. Il les choisissait, les agençait avec un soin presque maniaque. Un peu comme un peintre choisit et mélange ses couleurs, ses pigments.
Ah oui.
Oui, il y avait chez lui une approche très artisanale, physique de la langue. Ça rappelle vraiment le travail de l'atelier.
Et au-delà de sa pratique à lui, il a collaboré avec des artistes.
Oui, il était très proche du monde des arts visuels. Il avait des liens très forts avec les grands muralistes mexicains, tu sais, Diego Rivera, Siqueiros.
Oui, bien sûr.
Il partageait cet idéal d'un art engagé, populaire. D'ailleurs, certains ont illustré ses œuvres.
Ce qui devait créer un dialogue assez passionnant entre le texte et l'image, entre le poème et la fresque.
Tout à fait. Il admirait leur capacité à toucher beaucoup de monde, à faire de l'art un outil de prise de conscience. Ça collait avec ses propres idées. Et puis, il y avait aussi l'amitié avec des géants comme Picasso en Europe.
Mmh.
Un autre artiste engagé, dont la puissance visuelle devait forcément résonner avec la sienne.
C'est impressionnant de voir toutes ces connexions. Alors si on devait essayer de résumer l'essentiel de ce petit voyage dans la poésie picturale de Neruda, qu'est-ce qu'on garderait ?
Je dirais cette capacité hors norme à nous faire voir. Voir les émotions, voir la nature, voir le quotidien complètement transfiguré. Il utilise les mots comme un peintre utilise sa palette, ses pinceaux, avec des couleurs intenses, des formes inattendues, des métaphores qui nous frappent en plein dans l'œil et qui nous font voir le monde avec une intensité nouvelle.
C'est une poésie qui nous engage tout entier en tant que lecteur. Pas juste notre tête, mais notre corps aussi. Elle nous invite à regarder, à ressentir.
Précisément. Lire Neruda avec cette clé de lecture, c'est accepter une invitation constante à ouvrir grand les yeux. Les yeux de l'esprit, oui, mais aussi ceux du cœur. Sur la beauté, la complexité, la vibration du monde, ces vers, c'est une véritable école du regard.
Et pour aller plus loin, la source posait une question intéressante. Quel est le poème de Neruda qui nous marque le plus par ses images, par ses couleurs ? C'est peut-être une invitation pour ceux qui nous écoutent à relire ses textes avec ce filtre en tête, à chercher nos propres tableaux préférés chez lui.
Oui, de manière plus générale, ça peut nous amener à réfléchir à la façon dont cette fusion entre le mot et l'image, si magnifiquement réussie par Neruda, peut peut-être enrichir notre propre rapport à l'art, et peut-être même notre façon de percevoir la richesse visuelle du monde qui nous entoure tous les jours.